Bon, bonjour à tous d'abord. Salut. Je suis venu vous parler de ce qui fait que Dracula a été une révolution dans l'histoire des vampires, et surtout quelle a été la. Ça sera très résumé parce que. En raison du temps, quelle a été la descendance, comment Dracula a été repris par la suite après la mort de Stoker, quelle était sa carrière, si on peut dire. Et donc, je voudrais dire deux, trois petites choses avant. Quand en 1897, Stoker donc publie Dracula, le livre va bien marcher, c'est un livre qui va progressivement il va s'installer dans les ventes en librairie, mais il va être en concurrence avec un autre livre qui a été totalement oublié depuis et qui est une autre histoire de vampire, mais une histoire de vampire psychique, qui s'appelle Le Scarabée de Richard Marsh, qui lui a été un best-seller quasiment instantané. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que Dracula est arrivé comme ça, tout auréolé, comme un best-seller immédiat, mais ça n'a pas été le cas parce qu'il avait donc un gros concurrent qui, lui, a très bien marché, mieux marché souvent que Dracula pendant quelques années, mais après la mort de son auteur, Richard Marsh, en 1915. Le livre s'est devenu de moins en moins courant à trouver, et donc c'est un peu perdu, a été perdu de vue, alors que c'était une autre histoire de vampire psychique, donc une créature monstrueuse venue d'Égypte, et qui était racontée aussi comme Dracula, avec plusieurs, c'est un effet du hasard, donc, avec plusieurs voix. Ces deux romans qui finalement avaient. C'est bizarre qu'ensemble sortent deux livres pareils comme ça, qui étaient révolutionnaires tous les deux. Et donc malheureusement, le Scarabée n'aura jamais une grande carrière. Maintenant, on commence à le redécouvrir, mais c'était un bouquin qui n'a pas pu, comme Dracula, être adapté au cinéma, et donc parce que c'était beaucoup plus compliqué, notamment. Bram Stoker et Dracula sont restés le livre de référence, le grand best-seller à partir de 1897, quoi. Alors en dépit du livre révolutionnaire qui était le Scarabée. Moi, avec Bram Stoker, parce que je suis aussi de la génération Marabout, c'est-à-dire un peu plus tard que toi, quoi, la décennie d'après, quoi, je veux dire, donc ça doit être l'édition suivante. Moi, j'ai découvert ça avec tous les films des années 70 qu'on pouvait voir dans les cinémas, qui n'étaient pas avec Dracula, mais tous les films de vampires, souvent à petit budget, qu'on voyait dans les salles de série B, quoi, d'Aix-en-Provence notamment. Et en fait, avec Bram Stoker, la seule fois où vraiment nos chemins, si j'ose dire, se sont croisés, c'est au début des années 2000. Terre de Brume m'a demandé de faire la traduction complète du Joyau des 7 étoiles. Parce que la version de ce. Moi, je trouve que c'est le meilleur roman de. Il a beaucoup de défauts, mais c'est le meilleur roman de Bram Stoker après Dracula. Et donc, la traduction jusqu'à ce moment-là, il en manquait un tiers. On s'est aperçu. Et puis en plus, on a publié la fin, une fin. Parce que Bram Stoker avait écrit deux fins. Donc on a publié les deux fins. Voilà, c'est là pour la petite histoire. C'est là vraiment que Bram Stoker et moi, on s'est croisés comme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Donc en fait, en 1897, le livre part bien en librairie et tout comme ça. Dracula, c'est un. L'histoire, la carrière de Dracula, elle est intimement liée, et son succès, parce que pour que ça devienne le succès qu'on connaît maintenant, en fait, c'est passé par le cinéma. Jusqu'aux années 70, l'essentiel de ce qui concerne Dracula, ses adaptations, l'impact qu'il peut avoir auprès du public, et qui a été variable suivant les époques, c'est tout lié une pièce de théâtre et aux films qui ont souvent été, tirés du scénario de la pièce de théâtre et non pas du roman comme on peut le penser. La pièce de théâtre des années 20, c'est une pièce, comme c'est du théâtre, on a coupé évidemment toutes les scènes transylvaniennes, tout ce qui peut faire l'attrait d'un film fantastique à grand spectacle était forcément coupé. Et pour des raisons sans doute de pratique, cette pièce a été reprise plusieurs fois sous forme de film. Mais donc Dracula, on pense maintenant que ça a été que le livre a été très connu, que c'est ça qui a fait vraiment tenir le personnage, mais pas du tout, quoi. En fait, le livre a commencé à être reconnu, a été à chaque fois qu'il y a eu des films, ça a relancé le livre et ça en occultant, comme on disait tout à l'heure, totalement le nom de Bram Stoker. C'est pareil pour Frankenstein et Mary Shelley. Personne ne savait que Mary Shelley avait écrit le bouquin et donc personne ne savait que c'était un certain Bram Stoker qui avait écrit Dracula, quoi. Pour tout le monde, c'était Bela Lugosi. Après, ça a été Christopher Lee et puis d'autres acteurs. Donc y a ce côté que c'est une œuvre comme ça, une œuvre de littérature, et en fait qui a une vie dans d'autres médias, et ça va durer donc jusque dans les années 70, où là, il va y avoir enfin des livres qui vont parler de Dracula. C'est-à-dire que Dracula va devenir un personnage qu'on peut rencontrer dans d'autres histoires que celles de Bram Stoker, avec des crossovers comme ceux de Fred Saberhagen, par exemple, où Dracula rencontre une bonne partie des héros victoriens, Sherlock Holmes et compagnie. Et donc, on a enfin, et il y avait certainement des histoires de droit aussi, parce que donc Dracula n'a été dans le domaine public à peu près qu'à cette époque, et on ne pouvait pas l'utiliser comme on voulait. Je pense que les studios américains qui avaient acheté les droits ne l'auraient pas laissé utiliser tant qu'il n'était pas dans le domaine public. Et donc, Dracula va commencer à vivre une vie à nouveau chez d'autres auteurs à partir des années 70. Donc en fait, pour en revenir au début, dans les années 20, le livre est adapté sous forme de pièce de théâtre. La pièce de théâtre rencontre un succès assez important. Et ce qui se passe, c'est que bon, le succès était donc assez important en Angleterre. Ça marche en Angleterre, on exporte ça aux États-Unis, et donc la pièce de théâtre devient un succès à Broadway, commence à faire parler d'elle, et cette pièce de théâtre, elle est bien soutenue par un acteur qui joue ce comte Dracula, ce vampire mystérieux et tout à fait hypnotique et tout venu de l'Europe centrale. Et cet acteur, c'est Bela Lugosi. En fait, Bela Lugosi va donner la première incarnation à un personnage. Il va devenir, après la version film qui sera faite au début des années 30, Bela Lugosi va vraiment incarner pour le monde entier, sauf peut-être le monde hispanophone, parce qu'en fait, les studios ont tourné en même temps que le film de Todd Browning. Ils ont tourné une version espagnole. Ils tournaient le soir, le matin on tournait avec Todd Browning, et le soir on tournait avec un autre réalisateur, d'autres acteurs et tout. Et donc, en dehors du monde hispanophone qui a eu sa version à lui, qui n'a pas été un grand succès, ce personnage est devenu incarné par un acteur qui lui-même sortait de l'ordinaire, Bela Lugosi, qui avait un accent en plus qui correspondait parfaitement à l'origine du conte, qui avait une apparence un peu glaciale et qui donnait vraiment une vie, si j'ose dire, une vie après la tombe, à ce personnage, et qui a frappé les gens, et qui fait que, donc, Bela Lugosi, pendant 20 ans, ça va le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il va tourner, en fait, très très peu de films où il est le comte Dracula, il n'en tournera que deux. Hein. Tous les autres films, c'est des films de vampires, où il fait d'autres personnages plus ou moins inspirés, mais il va vivre plus ou moins, plutôt plus que moins, sur cette notoriété, sur cette incarnation qu'il a fait de ce personnage. Et d'autres films, comme la Universal a acquis les droits auprès de la veuve de Bram Stoker, Universal donc va décliner, il y aura d'autres pendant 20 ans, on va avoir des films plus ou moins réussis, plus genre le fils de Dracula avec d'autres acteurs et tout comme ça. Ils vont délayer le sujet, et en fait le vampire qui avait frappé les foules avec Todd Browning finalement se retrouve à la fin des années 40 dans des films avec Abbott et Costello. Enfin, c'est un peu la déchéance, le produit s'est usé, quoi, je veux dire, on se retrouve à la fin des années 40 avec un vampire exsangue, c'est vraiment le cas de le dire, un Dracula avec... Mais oui, c'est ça, c'est parce qu'en plus, Bela Lugosi vieillissait quand même pas très bien, et puis lui-même, donc, ayant fait d'autres vampires, il avait un peu à la force noyé le poisson, et donc Dracula était très très... était sur une très mauvaise pente, sur la pente de devenir un personnage de film de série Z. Et surtout, il commençait finalement à être oublié de la génération qui avait connu le Todd Browning, le film de Todd Browning à sa sortie, quoi. Et ce qu'il faut, ce qui se passe, c'est que, Dieu merci, il y a une firme anglaise qui s'appelle la Hammer, qui est une petite firme anglaise, qui rachète les droits de certains... de ce qu'on appelle les monstres de la Universal. C'est-à-dire parce qu'en fait, la Universal avait créé pour le cinéma Frankenstein, Dracula et d'autres, le loup-garou, et avait même déposé les masques, les maquillages. Et donc, en fait, la Hammer rachète les droits d'utilisation, mais sans les maquillages. C'est-à-dire que c'est pour ça que les Frankenstein de Hammer ne seront pas pareils que ceux de la... les loups-garous seront différents. Et donc, Dracula, l'apparence générale est sous copyright, si on peut dire. Et donc, la Hammer se retrouve à devoir trouver une autre façon de le représenter. Et ça, c'est très bien, parce qu'en faisant ça, elle va rénover, elle va redonner un coup de fouet au personnage en lui donnant un autre visage, qui va être celui d'un acteur atypique au point de vue même physique et tout, qui est Christopher Lee. Et surtout, la Hammer va avoir un avantage pour rebattre les cartes et refaire revivre au niveau international ce personnage, c'est que la Hammer va faire des films en couleur. Et pour la première fois, on va avoir Dracula en couleur. On va avoir Dracula, quand il mord les gens, le sang, il est rouge. Ça va être... Et puis surtout, on a ce personnage de Christopher Lee qui fait un conte qui est totalement différent de celui de Universal. C'est-à-dire que le Dracula de Universal, le Bela Lugosi, avait un peu un air compassé, un air très... vous vous souvenez tous de comment il est. C'était un conte lointain, il faisait très... comme on pouvait s'imaginer un noble de ces pays étranges et tout, comme pouvait être la Transylvanie. Et par contre, avec Christopher Lee, on a un fauve. On a un Dracula qui est toujours dérivé de Vlad Dracul. Enfin, non, il a toujours des origines un peu... des origines dans la noblesse lointaine, comme ça. Mais là, on a plus un gentleman, si on peut dire, un peu bizarre. On a, c'est un loup, quoi. Je veux dire, c'est un fauve qui est poussé par son par un besoin ben, de chasse, de boire le sang. Il ne parle pas dans le film, Christopher Lee, où il ne parle pas du tout. Il dit juste que juste. Je crois qu'il dit juste à un moment donné quelque chose. Enfin, il est là uniquement. Il n'a pas son côté envoûtant par son personnage ou sa façon de parler. C'est la bête qu'il va falloir qu'on a lâchée dans le monde moderne, qui vient du fond des âges, si on peut dire. Et c'est le spectre du vampire qui arrive et qu'il va falloir intercepter et mettre à mort. Quoi, parce que c'est vraiment un danger public. Quoi. Et il le joue bien. Parce que, puis en plus, il a un physique qui va... Jeune déjà, Christopher Lee avait... comme Bela Lugosi, par contre, il a un physique tellement spécial que il va devenir donc une incarnation. C'est la nouvelle incarnation de Dracula. Dracula a à nouveau un visage et Dracula peut devenir à nouveau un personnage très très populaire puisqu'il est incarné par un acteur qui a une présence assez extraordinaire. Quoi. Et il va devenir. Dracula va devenir connu dans le monde entier à nouveau avec le film de Hammer qui sera un très grand succès public, même s'il était interdit aux adolescents. Et on trouvera d'ailleurs des produits dérivés assez étranges, notamment Henri Salvador, qui en France va faire un Dracula cha-cha-cha. Donc ça va sortir sur un 45 tours où ça ne s'invente pas le titre qui faisait le vrai titre du 45 tours et qui sera un grand, grand tube, c'est Faut rigoler. Alors, faut rigoler avec Dracula à côté, c'était assez. Mais c'est pour montrer que quand si Henri Salvador chante Dracula cha-cha-cha en France, ça montre à quel point le film de la Hammer avait était devenu connu, puisque bon, quand on devient un personnage de chanson dans un autre pays que celui d'où on vient, pour un personnage, c'est une preuve que bon, on est rentré dans les mœurs, quoi. Et donc, il va se passer avec la Hammer ce qui s'est passé avec Universal, c'est-à-dire que Christopher Lee, 7 ans après, va refaire parce qu'il avait. Pour des histoires internes, puis il n'avait pas été très content de certaines choses, et tout, notamment de ne pas avoir de dialogue. Il va laisser poireauter le film qui devait se faire la suite, quoi, 7 ans. Après, donc, il va reprendre le personnage. Il y a Peter Cushing qui fait Van Helsing. La Hammer a son casting de film de Dracula, son personnage, tout. Et elle va faire ce qu'avait fait Universal, c'est qu'on va recommencer petit à petit à délayer, quoi, c'est-à-dire à faire du Dracula pas un peu au kilomètre, mais on en fait un peu beaucoup, quoi, je veux dire. Et puis la qualité ne va pas toujours suivre et tout, bien que ça soit servi par des acteurs quand même vraiment sympas. Quoi, je veux dire. Et on va arriver aux années 70. Avec de nouveau un Dracula qui a perdu de sa superbe, qui est usé, quoi. 15 ans, enfin en gros, 15, 20 ans, 20 ans pratiquement, oui, 20 ans après le cauchemar de Dracula, on est revenu à la situation à la fin des années 40, c'est-à-dire que oui, on connaît le personnage, oui, le roman est maintenant est disponible facilement en poche, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'arrivée du livre de poche dans les années 40 a permis à des livres comme Dracula de toucher un autre public, de devenir des espèces de best-seller perpétuel, un livre de fond. En plus, donc, comme il tombe dans le domaine public, donc dans les années 60, ça devient beaucoup plus simple pour tout le monde de publier le roman. Pour les éditeurs sont plus portés là-dessus, quoi. Donc on arrive dans les années 70 où en plus la Hammer a des tas de concurrents en matière de films de série B notamment chez les Espagnols, chez les Italiens, avec plein de films de vampires. Donc moi je me souviens dans les années 70 à Aix-en-Provence, dans la salle spécialisée pour les films de fantastique, ça enchaînait l'un sur l'autre, quoi. Le personnage Dracula donc se noie là-dedans, disparaît donc un peu du radar, quoi, je veux dire. Et ce qui se passe, c'est que heureusement, c'est que à la fin des années 70, Il va y avoir trois films qui vont remettre le personnage sous les feux de la rampe, et alors de trois façons différentes, puisque en fait il y en a un, c'est le Nosferatu, qui est un film, donc un film allemand avec Klaus Kinski en Dracula, mais Kinski a repris, et ce que voulait le réalisateur aussi, c'est de faire un hommage à un film des années 20, le Nosferatu de Murnau, qui avait été interdit pour des histoires de copyright. La veuve de Bram Stoker a essayé de faire brûler toutes les copies, parce qu'en fait c'était un plagiat complet de Dracula. On avait juste changé les noms, et puis on avait changé le nom il s'appelait Nosferatu, donc le nom mort, à la place de Dracula. Mais c'était un film qui était devenu mythique, c'était un très grand film muet, avec des scènes qui sont restées des scènes d'anthologie, et qui avait donc précédé les films de la Universal, mais sans avoir son succès. Et donc, en la fin des années 70, sort ce film allemand qui est un authentique. C'est pas un clin d'œil, c'est vraiment un hommage au Nosferatu de Murnau, et donc avec Klaus Kinski, mais avec cette fois-ci tous les autres personnages, enfin tous les personnages ont leur vrai nom. C'est-à-dire que c'est vraiment le comte Dracula et tout, mais par contre toute l'ambiance, tous les maquillages sont les maquillages tirés de Murnau. Et c'est un film qui est inégal. Il y a des acteurs, je trouve que Bruno Ganz jouant Jonathan Harker, il avait une espèce de dégaine presque de boxeur à l'époque. Ça faisait un peu bizarre, mais alors Kinski est absolument magnifique. Je veux dire, quand il est avec ses mains comme ça, avec ses ongles, quand il touche, quand il voit, il y a des scènes, il voit une petite goutte de sang sur un verre ou une bouteille, je sais pas trop quoi. On voit ses yeux qui s'allument, puis il est pris de tremblements et tout comme ça. Il est vraiment monstrueux. Et donc là, on a un Dracula qui a dû surprendre beaucoup de gens, parce que le film de Murnau n'était pas du tout connu du grand public, et qui a donné, c'est bien quoi, je veux dire, ça donne un visage que le grand public ne connaissait pas, et qui a eu quand même un certain succès. Il y a un autre Dracula qui était classique, par contre, c'est celui de John Badham avec Frank Langella. Alors on serait attendu ni à voir, enfin pour le, quand John Badham, qui a fait La Fièvre du samedi soir, fait Dracula derrière, on se dit ça c'est mal barré et tout comme ça. Mais non, le film est très bien. En plus, Frank Langella, avec son air de bel italien et tout comme ça, en fait, avait joué Dracula au théâtre, donc il y connaissait bien le personnage. C'est une adaptation, une nouvelle fois, de la pièce de théâtre des années 20. On a une façon de voir. C'est un autre Dracula. Alors là, extrêmement charmeur, pas du tout ce côté un peu vicieux et tordu que pouvait avoir même Bela Lugosi. C'est le charmeur italien qui vous mord à la première occasion, et puis qui vous emballe. C'est, je vous emballe et je vous mords, et tout est bien. Et le film est sympa. Vraiment, c'est un bon film qui est très bien passé. Et puis, il y a eu une comédie, avec George Hamilton, qui s'appelait. Merde, ça me faisait m'échapper. Le Vampire Sédame. Ou alors là, et puis c'est sorti, c'est trois films qui sont sortis en l'espace de moins de 2 ans, quoi. C'est un effet de hasard, je pense. Et donc Le Vampire Sédame, où là, Dracula se fait éjecter de Roumanie, et de son château et de Roumanie, parce qu'en fait, le gouvernement de Ceausescu a décidé de prendre le château de Dracula pour en faire le centre d'entraînement de Nadia Comăneci. Disons que voilà, c'est une star moderne de la Roumanie de l'époque qui en vire une autre, et Dracula se retrouve dans un avion avec Renfield, expédié à New York, et il doit donc survivre. C'est le passage du château de Transylvanie au Bronx, en gros. Et la survie de Dracula s'avère assez périlleuse et problématique. Et donc George Hamilton, 5 minutes, il me reste. Ah, j'avais plus que 25 pages à lire. Du coup, je m'en suis même pas sorti. Et alors, Georges, il y a eu comme ça un espèce de hasard qui a fait que Dracula est revenu un peu aux affaires. Il était revenu aussi, donc là, dans les années 70, par les premiers livres, on le voit apparaître comme personnage, comme ceux de Saber Hagen, où il y avait une série aussi d'un auteur américain qui s'appelle Robert Lowry, où Dracula donc revient, est aux États-Unis, est autorisé en gros à rester, à faire ses affaires, à condition d'aider la police de Californie à résoudre des problèmes, des énigmes et tout comme ça. Donc Dracula apparaît aussi dans des comics pour la première fois. On voit bien que les droits sont libres, quoi. Chez la Marvel, ça devient un personnage de la Marvel. Ça devient aussi un personnage, plus tard, ça deviendra un personnage même qui croisera le chemin de Batman. Il y a une trilogie plus moderne en matière de comics, où Dracula donc s'oppose à Batman, à Gotham City, quoi. Donc ce qui se passe, c'est, je fais vite là parce qu'il n'y a plus que 5 minutes, le balancier va encore 4, le balancier du cinéma refait encore et ce qui va remettre de nouveau Dracula au goût du jour, c'est le film de Coppola dont on a parlé tout à l'heure, pas tout à fait en bien, mais c'est vrai que c'est une adaptation très baroque, avec des acteurs comme Anthony Hopkins, Gary Oldman, et puis il y a vraiment, c'est un gros succès du box-office. Ça donne au personnage une nouvelle exposition qui le rend célèbre dans le monde entier, parce qu'en plus, là, il y a un casting. Avant, c'était des acteurs que les gens ne connaissaient pas qui incarnent le Dracula, et là, on a un casting avec des acteurs connus, excellents. Donc, là, le film d'ailleurs de Coppola va faire plus que remettre le personnage de Dracula comme une star, en refaire une star, c'est que ça va lancer aussi un renouveau de toute la littérature, de tous les films vampiriques, et surtout de la littérature, et tout ce qu'on voit maintenant, l'engouement qui était déjà né avec Anne Rice à la fin des années 70, va prendre un coup de fouet avec ce film, et donc on a la bitlite, tout ça, si on peut dire, dérive du succès du Dracula de Coppola, qui a fait vraiment, qui a ouvert un boulevard au jeu. Il y a eu des jeux, il y a eu la série comme La Mascarade, qui était à la fois un jeu, des romans, enfin, et puis on atteint donc maintenant ce phénomène incroyable qu'est la littérature vampirique. Donc on peut dire que ce Dracula-là, il a fait plus que se remettre lui en selle, il a mis vraiment en selle toute la littérature vampirique. Et puis là, puisque je suppose que j'ai plus que 30 secondes, c'est ça?
10.
10? Ah, j'ai plus que 10 secondes, on va faire très très vite. Donc, pour boucler l'affaire, et récemment est sortie une suite à Dracula, qui était écrite par son petit-neveu, je crois, qui s'appelait Dacre Stoker, et qui finalement bon, c'est pas mal comme roman, ça n'a pas la qualité de l'original, de la première partie, mais finalement, c'est la première fois qu'on reprend vraiment Dracula en reprenant l'affaire au départ, puisque en fait, une partie des notes dont s'est servi Dacre Stoker et Ian Holt, dont ils se sont servis, c'est des notes d'écriture de Bram Stoker, qui avait précédé la version publiée. Et il y a des personnages qui avaient disparu. Il y avait un inspecteur de police, notamment, qui s'appelle Gosford. Ils ont fait un travail intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont repris l'affaire comme Bram Stoker pensait l'affaire au début. Ils se sont servis de ça pour faire une suite, en rajoutant des guest stars comme la comtesse Bathory. Moi, la comtesse Bathory retrouvée à Marseille, dans les villas, enfin, du Prado. J'avoue que quand j'ai lu ça, je trouvais ça vraiment rigolo. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, ce roman, cette suite, maintenant, quelque part, il va falloir il va falloir un peu en tenir compte, parce que le fait qu'elle ait été écrite par un autre Stoker, qu'elle fasse appel à des personnages qui avaient été laissés en route. Maintenant, ça a rajouté quelque chose qui devient un peu, ça devient un peu incontournable. Je pense plus que, je pense pas que on puisse faire maintenant de nouveaux Dracula sans tenir compte de ça, parce qu'en fait, c'est un apport familial. Et c'est un apport très intéressant au point de vue littéraire, puisqu'il y a tout ce que Bram Stoker n'avait pas dit dans le Dracula, n'avait pas pu le mettre parce que son éditeur a peut-être fait, obligé de pousser à des changements, des choses comme ça. Eh bien, tout ce qui manquait est remis en scène. Et puis surtout, c'est que dans le livre, le premier Dracula, il y avait des relations entre des personnages qui n'étaient pas claires, pas expliquées. Avec Luther Seward, il y a tout un tas de personnages qui étaient là, mais on ne savait pas trop pourquoi ils étaient là, parce qu'on ne sait pas le background. Et le background, ce background est expliqué maintenant dans le Dracula l'Immortel. Et je trouve que maintenant, enfin, donc, que Dracula et Dracula l'Immortel, ça fait un espèce de tout dont il faudra tenir compte pour les futures adaptations.
Oui, puis on assiste au départ du Titanic dans le bouquin.
Ah oui, ben ça c'est... Ouais. Oui, le Titanic. C'était vraiment une mauvaise semaine, hein, ce, en 1912. Hein. Parce que 6 jours après le Titanic, c'était vraiment une mauvaise semaine. Voilà, bon, c'était...
Ok, merci, merci Richard, merci à
vous.
Est-ce
que vous avez quelques petites questions ?
Tu n'as pas parlé.